Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez.
Tous au poste.
Tous les postes de radio.
Sur Divergence FM.
Alors là, oui.
Tous au poste.
Midi 13h.
17h, 18h.
Agenda.
Nouveautés discographiques.
Interviews
et informations internationales.
Tous au poste, tous au poste, tous au poste.
Je continue.
Souffle du nez en même temps.
De glace entre chaque mot.
Moi, je vais te mettre au rushing.
Nous parlons tous de la logosphère. Vous êtes ici. Vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure.
Avec
moi, les citoyens de la logosphère.
C'est le mot que je cherchais.
La radio.
Autrement.
Encore plus intense, encore plus incisive.
Tous au poste.
La radio.
Vraiment. Pour tout le monde, comme la vie.
Tous au poste sur Divergence FM.
Et bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes le mercredi 19 mai. Accrochez votre ceinture ou votre partenaire. Nous sommes partis pour une virée culturelle de 50 minutes. Pascal Rullier derrière les petits boutons, Julia Chamaudon au micro. C'est parti. Au menu du jour, nous parlerons de jazz et de musique improvisée aujourd'hui en compagnie du collectif Koa qui présente ses troisièmes rencontres Koa Jazz au théâtre La Vista à partir de demain. En deuxième partie de ce Tous au poste, Christian Coste reçoit Damien Conaré, le rédacteur en chef du magazine Des Courriers de la Planète. Alors qu'hier, des milliers d'infirmiers anesthésistes investissaient les pavés des gares SNCF pour protester contre la non-reconnaissance de leur spécialité, Olivier Assayas secoue l'opinion cannoise en présentant son dernier film ou feuilleton au choix sur le terroriste Carlos. Sans transition aucune, voici nos bons plans. Le loup-garou-garou s'est investi du côté de Montpellier. On ne parlera pas eh bien, de où il se produit ni de l'heure. Garou, c'est pour les ploucs. Côté hip-hop, le bon plan du jour, c'est bien sûr la Battle of the Year avec des Circle Vibes qui commence avec DJ, le grand DJ Kubert, Bustaflex et les artistes de graffiti Revoke qui nous vient tout droit des USA, Jace qui nous vient de l'île de la Réunion et Mist, Zest, Momiz et Klaus. C'est à 14h sur la place de la Comédie, c'est gratuit et c'est ouvert à tous. Ce sera suivi à 21h d'un concert, grand concert avec le DJ Kubert Under Control et Bustaflex à 21h au Rockstore 20 rue de Verdun. Il vous en coûtera entre 12 et 16 euros. On prend un peu le soleil du côté bien du jam avec Fiesta Créole. Une fiesta avec des musiciens de l'île de la Réunion, dont Jean-Roland Miquel, chanteur du groupe Cayenne, Mamo, compositeur de la chanson Caffrine de Miel, également le groupe Mirage et Cliff Azor. C'est à 21h au Jam, 100 rue Ferdinand de Lesseps. Il vous en coûtera très précisément 19,75€. Un peu de jazz, du Latin Jazz avec DM, Steel Pan Quartet, du Latin Jazz, Calypso et de la Soca dans le cadre des soirées Montpellier Soleil. C'est à partir de 21h30 à la Bodega L'Oscar à Colessuy, place Les Sacs. Il ne vous en coûtera que 3 ou 5 euros avec un cours de salsa. Jazz toujours avec ta mère en swing. Ce célèbre groupe de jazz montpelliérain se produit à 21h30 au bar La Pleine Lune, 28 rue du Faubourg Figuerolles. L'entrée est libre. Du côté classique de la chose, vous retrouverez l'Opéra Junior avec le groupe vocal de l'Opéra Junior dirigé par Valérie Sainte-Agathe. Ils interpréteront des madrigaux tchèques de Bohuslav Martinu, accompagnés au piano par Kaoru Otto. C'est à 19h à la salle Molière de l'Opéra Comédie, boulevard Victor Hugo. Il vous en coûtera 3, 5 ou 10 euros. L'homme à tête de chou est à Alès. Il ne s'agit pas de Serge Gainsbourg, mais de Jean-Claude Calota, qui présente sa dernière création sur les chansons de Serge Gainsbourg. C'est à voir à 20h30 au théâtre Le Cratère à Alès. Côté théâtral, eh bien, le festival In Vitro poursuit sa course avec Peter Pan, une pièce adaptée du livre de Jean-Marie Barrier, mise en scène par Charlotte Cousin. C'est interprété par des étudiants et des anciens conservatoristes de théâtre de Montpellier. C'est à 20h30 au Trioletto, 75 rue Augustin Flich, et c'est gratuit. création étudiante toujours avec le festival L'Archduc, ni une ni deux. Une pièce d'Eugène Durif, mise en scène par Céline Majoubier. C'est avec Chloé Louis, Julienne Bégeau, Nicolas Breton dans le cadre du master d'études théâtrales à 19h15. Et ce sera suivi d'En attendant Godot, des variations sur la pièce de Samuel Beckett par le groupe de travaux pratiques de La Vignette à 20h30. Au théâtre donc La Vignette de l'université Paul Valéry, route de Mende, et c'est gratuit. Le mercredi, on a une petite pensée à nos chères têtes chérubines. C'est bien sûr les enfants avec des marionnettes et des chansons qui leur sont proposées avec le spectacle Tout Doudou, un spectacle de chansons et marionnettes sur un texte d'Adeline Isaac, interprété par Angeline Grand-Girard. C'est à partir de 2 ans et c'est à voir à 16h au Théâtre de la Plume, 6 rue Guillaume Pélissier. Il vous en coûtera entre 4 et 7 euros. Ça perd l'hippopette, voilà, enfantillage, avec le spectacle Monsieur Lune, un spectacle burlesque de et interprété par Gilles Rémy. C'est à 15h et à 16h30 à la librairie Sorampes Polymôme au Triangle. Côté conférence, c'est le moment de remplir votre feuille d'impôt. Des consultations fiscales avec des avocats montpelliérains vous sont proposés pour remplir votre déclaration d'impôt de 9h à 17h dans le hall de la mairie, place Francis Ponge, à côté du Polygone, et c'est gratuit. Le Festival d'Avignon est bientôt là. Une conférence sur Christophe Martaler, artiste associé au 64e Festival d'Avignon, par Pascal Bessadi, qui organise la communication du festival. C'est à 18h30 à la maison de Heidelberg, 4 rue des Trésoriers de la Bourse, et c'est gratuit. Côté architecture, une conférence, un café patrimoine plutôt et architecture sur le thème concevoir un éco-quartier, un thème dans le vent avec Catherine Charlot-Valdieu, économiste en charge du développement urbain durable au CSTB. C'est à 19h au café Riche, place de la Comédie. Et pour finir votre soirée de manière scientifique, n'oubliez pas l'Agora des Savoirs, une conférence ce soir sur le thème modernité, sortie ou transformation du religieux, point d'interrogation, avec Jean-Claude Monod, chercheur au CNRS, qui enseigne la philosophie à l'école normale supérieure. C'est à 20h30 à la salle Rabelais, boulevard Sarail sur l'Esplanade. C'est gratuit et c'est retransmis en direct sur nos ondes divergentes. Côté cinéma, eh bien, le festival Arabesque vous propose ce soir un film de Ahmed El Mahnouni, le film Trans. Ce sera suivi d'un débat avec la productrice Isa Genini et c'est organisé par l'association Unisson dans le cadre du festival Arabesque à 20h05 au cinéma Diagonale Capitole. Il vous en coûtera une place de cinéma habituelle. Également dans le cadre de Change of Direction, l'événement du Battle of the Year, Turn It Loose, un film documentaire de Alistair Siddons, à voir à 14h au cinéma Rabelais, boulevard Sarail, sur l'Esplanade. Voilà, c'est tout pour les bons plans du jour. On passe à notre nouveauté de la semaine. C'est l'Orchestre National de Barbès qui présente son dernier opus, Rendez-vous Barbès. Il sortira le 21 mai prochain. Ce groupe de musiciens français, fondé en 1995 par le compositeur Youssef Boukela, ancien musicien de Cheb Mami, sort donc son nouvel opus, Cocktail explosif et hétéroclite. Les Youyou font place au pas de danse. On écoute tout de suite No, No, No.
Rester comme ça va se croiser les bras.
No, 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 no.
Regarde au fond de toi et dis-moi ce que tu vois.
Oh, no.
Est-ce qu'on est tous là?
No.
Ne manque que toi.
No, 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 no.
Ne me dis pas que tu ne sais rien faire de tes doigts. Quelle est donc cette mine que tu portes sur toi qui a bien pu te mettre dans cette attendant que ça se passe et il ne tient qu'à toi que se brise la glace.
Nous sommes tous
du même diamant. 1, 2, 3, 4 face un seul éclat.
Nous sommes tous
des quatre vents et l'on résonne.
De ci, de là, de ci, de là.
Aïe, aborca la comédie.
Aïe,
aborca, oui, ça suffit.
Aïe,
aborca la comédie.
Aïe, aborca,
aïe, aborca, oui, ça suffit.
No, no,
dis pas que tu ne sais rien faire de tes dix doigts.
No, 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 no.
Regarde au fond de toi et dis-moi ce que tu vois.
Oh, no, no.
Est-ce qu'on est tous là?
No.
Ne manque que toi.
No, 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 no.
Ne me dis pas que tu ne sais rien faire de tes dix doigts. Allez, viens transpirer tes chagrins retenus. Enlève cette vieille peau, mets-toi à nu. Sous l'épiderme, il y a la plage. Quelques gouttes de sueur de l'atmosphère de la moiteur. Tu gagnes, on change, ça te démange. On en parle, on s'arrange. On se distille, on s'alambique. Rendre des comptes, ça nous dérange. Tu gagnes, on change, ça te démange. On en parle, on s'arrange. On se distille, on s'alambique. Ce que l'on aime.
La part des anges. La part des anges. La part des anges. La part des anges.
Va pas rester comme ça, va se croiser les bras.
No.
Regarde au fond de toi et dis-moi ce que tu vois.
No.
Va pas rester comme ça, va se croiser les bras comme si comme ça. Ouais.
No.
Mais oui, dis-moi ce qu'il y a au fond de toi. Derrière chaque poitrine, les cœurs font leur cuisine. Tout le monde a sa recette, toi tu es un esthète. Ne pas être un manchot, fut-il un empereur. Croire en soi, telle est la loi, tu ne sais servir de tes dix doigts. Tu gagnes, on change, ça te démange, on en parle, on s'arrange. On se distille, on s'alambique, prendre des comptes, ça nous dérange. Tu gagnes, on change, ça te démange, on en parle, on s'arrange. On se distille, on s'alambique, ce que l'on aime.
La part des anges,
right.
La part des anges.
Remarquez, c'est le troisième titre de ce nouvel opus de l'Orchestre National de Barbès qui s'appelle No, No, No.
Tous au poste, interview.
Et en première partie de ce Tous au poste, eh bien, j'ai le plaisir d'inviter le collectif Coa Jazz en la personne de Mathia Levrero, qui n'est pas portugais, mais guitariste du Melkiad Quartet et également orateur dans Coa Roi, le nouveau conte musical du collectif Coa. Également présent Alfred Villeleg, bassiste du Melkiades Quartet et directeur artistique du collectif Coa, également chef d'orchestre du grand ensemble Coa. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour Julia, comment vas-tu?
Mais très bien, et toi Alfred?
Magnifiquement bien.
Bon, super. Alors le collectif Coa, c'est quoi?
Alors, je vais peut-être commencer par répondre à cette question. Donc le collectif Coa, c'est un collectif de musiciens, de plutôt jeunes musiciens, d'une moyenne, on a entre 20 et 30 ans à peu près. Et donc on s'est réunis il y a de cela 3 ans, en 2007, pour créer un collectif, pour pouvoir monter des groupes de manière plus autonome et enfin de manière un peu
plus libre peut-être.
Plus libre aussi au niveau de la création, c'est-à-dire on était moins obligé d'aller jouer à droite et à gauche, parce que bon, faut savoir que pour les jeunes musiciens actuellement, c'est pas une période facile pour vivre de la musique. Et donc on a décidé de se regrouper notamment au sein du grand ensemble Coa, qui comprenait au départ la quasi-totalité des musiciens du collectif Coa. Maintenant, on s'est étendu, donc il y a d'autres gens aussi qui ont rejoint le collectif. Et donc on a pu monter plusieurs groupes, et notamment on a pu monter ce festival, ce petit festival qui sont les Rencontres Coa Jazz, donc tout de suite après, en 2008. Et donc là on en est à notre troisième édition.
Et je rappelle que vous êtes une association qui promouvoit la création et la diffusion de musique jazz et de musique improvisée, hein, pour planter un petit peu le décor. C'est un petit peu ça votre ligne directrice?
Tout à fait, je suis complètement d'accord.
Et vous êtes issu du Conservatoire Régional de Perpignan? Pour la petite histoire du collectif Koa.
Alors pour la petite histoire du collectif Koa, on s'est rencontré au conservatoire régional de Perpignan dans la classe de Serge Lazarevitch, qui est un guitariste montpelliérain aussi. Je pense que tu dois peut-être le connaître. Et donc c'est au sein de cette classe qu'on s'est réunis et qu'on a commencé à jouer en grand groupe, notamment parce que moi-même j'étais tout jeune enseignant et je dirigeais le big band du conservatoire. Et c'est à cette occasion là qu'on a monté ce qui allait devenir plus tard le Grand Ensemble, et que les autres musiciens donc du Grand Ensemble ont monté d'autres groupes tels Yoda Quartet, Jeff Martin Trio et ainsi de suite.
Alors la volonté de se regrouper en collectif vient d'où? Peut-être d'une volonté de réfléchir ensemble à la création, de prendre un peu de temps pour la recherche et la création de manière collective et commune.
C'est-à-dire que bon, le musicien en tant que tel, depuis toujours, est plutôt un électron libre qui va de groupe en groupe, notamment d'orchestre en orchestre, notamment dans le jazz et les musiques improvisées telles que nous on la pratique, où il y a un peu cette capacité, cette faculté d'adaptation importante qui permet de jouer plusieurs styles de musique. Donc là, on est un collectif de jazz, mais en fait, on est énormément de jeunes musiciens qui ont des influences diverses, donc qui peuvent aller de la musique classique au rock, la musique électro, musique traditionnelle, la chanson française, enfin bref. Donc tout le monde a joué un peu de tout. Et là, on s'est réunis pour faire du jazz, parce que c'est vrai que c'est un style musical qui est plus difficile à défendre au niveau de la création. On a toujours cette image un peu vieillotte du jazz, avec des grands blacks habillés en costard qui jouent dans des clubs enfumés.
Ce que vous n'êtes pas.
Non, pas du tout.
On n'est pas des grands blacks.
Il y en a là aussi parmi nous.
En costard, on ne s'habille pas tout le temps en costard, en effet.
Des caves enfumées, peut-être.
Des caves enfumées. On n'a pas de cave, donc voilà. Montpellier, c'est pas une ville à cave, d'ailleurs. Il y a des villes à cave, on peut le dire. Hein.
Toulouse, par exemple.
Toulouse, Paris, il y a énormément de caves. Il y a Lyon, il y a des caves. Mais Montpellier, il n'y en a pas tant que ça. Si, il y a le Baloir.
Donc vous jouez au Grand Air.
On joue pas au Grand Air non plus, on joue au théâtre La Vista là pour l'occasion, donc mais bon, on a essayé de dépoussiérer un petit peu cette image du jazz en proposant des projets différents, notamment là pour les rencontres Koa Jazz, il y a le quartet Melquiades qui est autour des musiques du monde, et le Grand Ensemble Koa, où on fait une création autour de l'œuvre librement inspirée de l'œuvre d'Alfred Jarry, Ubu Roy, avec un comédien et les 11 musiciens du Grand Ensemble.
Alors justement, le quartet Melquiades, on va en parler un petit peu, puisque c'est le premier concert qui est programmé dans le cadre des 3e rencontres Koa Jazz. Un quartet qui mêle autant des musiques traditionnelles des quatre coins du monde, hein, on peut parler de musique qui vient des Balkans, du Portugal, d'Écosse, d'Argentine, mais également une musique qui flirte avec un amour incommensurable de l'improvisation.
Oui, alors c'est vrai qu'en fait, déjà pour parler du titre de ce groupe, donc Melquiades, c'est le nom d'un personnage du roman de Garcia Marquez, Cent ans de solitude. C'est un personnage qui revient tout au long du roman. C'est un vieux gitan qui n'a de cesse de faire le tour du monde pour prendre des inventions un peu incroyables d'Inde, d'Afrique, c'est qui toi. Cherche à vendre. Voilà, tu découvres
c'est
peut-être.
C'est toi, Mathieu.
Oui, c'est moi.
Un peu portugais aussi.
C'est
hein.
Ça, un peu de partout. Voilà. Et donc c'est un peu le principe de ce qu'on fait. On n'a pas toujours l'occasion de voyager, mais avec Internet, avec les médiathèques et un peu en voyageant aussi, on arrive à trouver vraiment des mélodies magnifiques, très simples, très belles, qui ont vraiment le pouvoir de toucher, de nous toucher, de toucher le public. Et ces mélodies-là, on se les approprie, on les arrange, on les réharmonise, on les fait vraiment, on mélange d'autres influences, du rock, du jazz, du free jazz, et voilà. Ça donne, je pense, un jeune et beau projet.
Voilà. On va écouter ça tout de suite pour se donner une petite idée de cette fusion. We'll be right back. roumain, n'est-ce pas Mathia?
Absolument, donc c'est un thème traditionnel roumain, voilà, qu'on a repris et on s'est amusé à improviser librement dessus, sur cette ligne de basse, voilà.
Alors en première partie du Melquiades, on va retrouver du sound painting. Alors qu'est-ce que c'est le sound painting? Ça commence à éclore un petit peu partout en France et dans le monde. Comment vous pouvez raconter le sound painting à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce que c'est?
Alors le sound painting, c'est un langage à base de signes. Donc il y a un chef d'orchestre qui dirige un groupe de musiciens ou de comédiens. Voilà, c'est un système d'improvisation en fait à base de signes. Voilà.
Par le corps,
voilà. Ça vient des États-Unis d'un monsieur qui s'appelle Walter Thompson et qui à la base écrivait pour Big Band de Jazz. Et petit à petit, il a eu envie, en dirigeant cet orchestre, de rajouter des pêches rythmiques, des choses un peu spontanées. Et puis petit à petit, il a fait plus que ça, en fait. Il a arrêté d'écrire de la musique et tout. Il a écrit un langage très complexe avec beaucoup de signes.
Qui est universel,
voilà. Il a dit librement, enfin, tout le monde peut il n'y a pas de droit à payer, tout le monde peut l'utiliser. C'est vraiment très sympa. Pour initier notamment les gens à l'improvisation, par exemple. Les gens, alors on peut vraiment mélanger plein de styles de musiciens. On peut mettre des musiciens de rock, des musiciens classiques, des musiciens qui ont un très grand niveau, des musiciens débutants. Vraiment, c'est assez ludique et très vite, on arrive à un résultat assez sympa.
Alors, qui sera là pour présenter ce sound painting demain soir? Vous?
Oui, c'est moi. Je vais le diriger.
On sera là tous les deux, en fait.
On sera là.
En fait, on a fait un atelier donc la semaine dernière. On a fait trois ateliers, trois jours de suite où on a proposé aux gens de participer à cet atelier. Et ça,
à qui, aux gens?
On a fait un appel à participants, donc c'était vraiment libre, n'importe qui pouvait s'inscrire. Et donc on a travaillé pendant trois jours sur une série de signes. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le sound painting, de manière courante, il y a à peu près 150 signes. Là, on a travaillé sur une quarantaine de signes et ça permet de créer des petites pièces improvisées d'une dizaine, un quart d'heure, quoi, une dizaine de minutes, un quart d'heure pour jouer en live en fait et finalement sans aucune préparation autre que connaître les signes du sound painting.
Un dispositif qui allie donc le corps et la musique dans une vue d'improvisation finalement.
Alors c'est pas vraiment le corps, c'est-à-dire que c'est une suite de gestes donnés par le sound painter, donc c'est le sound painter quelque part, c'est le chef d'orchestre et c'est une suite de gestes que lui il donne et donc les musiciens répondent en fait aux gestes que le sound painter donne.
Mais la danse est partout, peut-être dans ces petits gestes que le sound painter effectue, il y a une histoire de petite danse aussi.
C'est très théâtral, quoi, ouais. Disons. Quoi. Après, il y a un aspect, un moment où on peut jouer sur le corps, mais c'est un aspect très théâtral. Et d'un autre côté aussi, on dit que c'est de l'improvisation dirigée. Moi, je dirais plus que c'est de la composition instantanée, parce que finalement, c'est le sound painter qui choisit en fait quelle direction va prendre le morceau qu'il est en train de faire jouer à l'orchestre finalement. Et donc, c'est à lui aussi de composer finalement de manière improvisée et sans réfléchir au préalable à ce qu'il va faire. Donc, c'est lui qui compose sur l'instant en fait la pièce.
Ça permet peut-être de faire sortir des choses totalement spontanées et inattendues de soi.
Ah oui, inattendu, je crois que c'est le mot, parce que vraiment, même si on compose en tant que sound painter, même si on compose spontanément, on peut pas savoir ce que ça fait. Si je dis par 10 musiciens de faire tous ensemble une note tenue, bon, je peux pas leur dire laquelle ils vont faire, donc je vais avoir un accord soit hyper dissonant, atonal, soit magie du hasard, au contraire un accord magnifique, très beau, donc
très harmonieux.
Là ça va vraiment changer mes décisions futures, donc c'est très intéressant, c'est quand même très interactif et voilà.
Donc une expérience à vivre demain à partir de 21h, ce sera donc suivi du concert du Melquiades Quartet, ce fameux gitan vagabond, et puis le lendemain, le vendredi 21 mai, c'est Magic Malik Orchestra qui vient donc avec sa formation, qui vient donc nous parler de flûte, si je peux dire ainsi, puisque c'est un des rares musiciens de jazz à s'emparer de la flûte pour la faire chanter, pour la faire crier aussi. Magic Malik, comment
oui,
on peut le définir?
Il a des influences très 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 vastes, hein, de la musique électro au rock, à la musique plus latine, à la musique indienne. Vraiment, c'est quelqu'un qui est un genre de surdoué incroyable, qui a touché à tout. Et c'est vraiment un honneur pour nous de l'accueillir dans notre petit festival. Voilà, on a une vraie tête d'affiche incroyable qui est venue très généreusement. Et en plus, on a la chance de travailler deux jours avec lui pour faire une genre de masterclass qui est ouverte d'ailleurs aux gens, donc à la Vista, le jeudi et le vendredi.
Et donc, c'est quelqu'un qui a partagé l'affiche avec nombreux artistes de différents genres musicaux, hein, que ce soit Camille, Mathieu Chédid, Hocus Pocus, R, Boom Chelo aussi. C'était également, je crois, un ami de Julien Louraud. Il était dans le groove Gang, sa formation, à un moment, pendant longtemps.
C'est vrai que Magic Malik, il a un peu eu les deux facettes. C'est qu'il a joué avec de nombreux artistes français qui sont dans le milieu de la pop, du rock, du rap même, et avec des musiciens donc de jazz très pointus, appartenant à la jeune génération, à la fois français, belge et américain. Alors les plus connus, évidemment, c'est des gens comme Steve Coleman. Il a participé à des albums avec Steve Coleman. Il a joué avec Nelson Veras, avec Julien Louraud, le Groove Gang. Il faisait partie de cette histoire-là. Et donc, c'est vrai que c'est un artiste qui, pour nous, en fait, on a un peu tendance à s'identifier à lui, enfin, dans les jeunes générations de musiciens, tant par le fait que c'est un musicien incroyable et qui a des concepts musicaux tout à fait novateurs, enfin originaux, très personnels en tout cas, qui développe vraiment un langage musical qui lui est particulier, et en même temps qui reste ouvert finalement à tous les autres styles musicaux, que ce soit la musique traditionnelle, le rock, et donc c'est vrai que ça va être, je pense, notre festival, c'est les rencontres Quad Jazz, donc ça va être une rencontre vraiment très intéressante. On va le chercher ce soir et on reste avec lui jusqu'à vendredi, jusqu'au concert.
Ouais, faut réserver, c'est presque complet.
Ouais, exactement. Si vous voulez venir, faut vraiment réserver là.
Une belle rencontre donc le vendredi 21 mai à 21h. Et puis ça se termine par le samedi 22 mai par Koharoi, acte 2, une création musicale inspirée de l'œuvre du Burois d'Alfred Jarry. Tu peux nous en parler, Mathia, puisque je crois que tu as des choses à dire là-dessus.
Ah oui, alors bon, c'est surtout Alfred, hein, qui est à l'origine de ce projet, vu qu'il a écrit toute la musique, effectivement, inspirée de cette œuvre du Burois, cette œuvre absolument incroyable, quoi. Donc la musique est vraiment composée comme une pièce, vraiment tous les morceaux s'enchaînent, mais ont un lien entre eux, des mélodies qui reviennent. Vraiment, c'est une petite symphonie du collectif Koa. Et
en fait, au niveau de la musique, on a agi un peu de manière différente de ce que sont les pièces de théâtre avec les musiciens. C'est-à-dire que souvent, il y a d'abord le texte et ensuite on insère finalement la musique pour ponctuer le texte. Là, on a agi de manière différente. C'est qu'on a d'abord fait la musique en suivant la narration finalement suivant à peu près la narration de Luberoy d'Alfred Jarry. Et ensuite, une fois que la musique était écrite, Mathia a écrit des textes librement inspirés de Luberoy. Et on a commencé à travailler donc cette semaine avec Xavier Besson, qui est un comédien tout à fait incroyable, qui joue finalement le rôle de conteur, de narrateur et plusieurs personnages de la pièce. Et donc on a travaillé avec lui pour finalement allier le texte à la musique et finalement donner une œuvre qui se situe à la fois entre le théâtre et le jazz. Contemporain et péchu, quoi, qu'on joue avec le grand ensemble, quoi.
Un beau festival donc, l'heure tourne et on va devoir rendre l'antenne, mais un beau festival à la croisée des arts, hein, si je pourrais mettre un terme concernant les troisièmes rencontres Koa Jazz. Également parallèlement au concert, une exposition de photos de jazz signée Franck Bigotte vous est proposée au Théâtre de la Vista. Donc je rappelle, 20, 21 et 22 mai au Théâtre de la Vista à Montpellier. Plus d'informations ou de réservations, c'est le 04 67 58 90 90. 04 67 58 90 90. Également, vous pouvez aller surfer sur le web, sur le collectif koa.free.fr ou sur leur MySpace. Merci à vous deux d'être venus, Mathia et
Merci
David.
Merci beaucoup.
Merci Julia.
Et Alfred, pardon.
Alfred, je ne sais pas pourquoi David.
J'aurais pu t'appeler David.
Mais c'est mon frère en plus. C'est voilà. Que ça me poursuit, c'est que beaucoup de gens se trompent et m'appellent David d'ailleurs.
Eh bien, David, Alfred et Mathieu, à bientôt. Et surtout, eh bien, je vous retrouve demain. Bon concert.
À demain.
Et en attendant, on écoute un petit peu de Koa Jazz.
Interview à suivre avec Damien Conaré. Bonjour Damien.
Bonjour.
Qui est tu es le rédacteur en chef du Courrier de la Planète, qui est une revue trimestrielle.
Absolument.
Qui sort donc tous les trois mois. Comment je pourrais définir la revue? Je dirais une revue d'études, d'analyses critiques sur les sujets qui concernent le développement, l'environnement, les défis d'un monde solidaire.
Exactement, hein, voilà, qui traite des relations internationales sur l'angle, effectivement, des problèmes d'environnement.
Une revue confidentielle pour le grand public, ou non?
Oui, on a un tirage assez limité, on tire entre 2000 et 3000 exemplaires, et on est diffusé, en fait, dans les librairies et par abonnement.
Une revue, donc, je disais, confidentielle, mais de référence. Alors, si je te reçois aujourd'hui, mercredi 19 mai, c'est parce que demain, le jeudi 20 mai, de 10h à 16h, tu animes une conférence débat autour du thème sécurité alimentaire au-delà de l'urgence. Ça renvoie directement au dossier du Courrier de la Planète numéro 91 que j'ai dans la main. Sécurité alimentaire au-delà de l'urgence. Donc, c'est une conférence débat qui s'étale sur un certain nombre d'heures, puisque de 10h à 16h, il y a le temps d'en dire des choses. C'est au CIRAD, avenue Agropolis, c'est le campus de la Valette. C'est à Montpellier-Amphi, Jacques Alliot. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as fait un dossier? Vous avez décidé de faire un dossier là au Courrier de la Planète sur la sécurité alimentaire en disant « au-delà de l'urgence ».
Ouais. Alors, au-delà de l'urgence, le titre fait référence à l'idée de se demander qu'est-ce qui se passerait, comment on pourrait traiter de cette question-là au-delà de simplement des situations d'urgence et donc de voler d'aide humanitaire en aide humanitaire selon les situations critiques. Et donc de réfléchir un petit peu à l'échelle internationale traiter ce problème. Historiquement, Courrier de la Planète, c'était des sujets sur lesquels on était beaucoup investis. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus parlé de sécurité alimentaire depuis au moins une dizaine d'années. Alors évidemment, le sujet est revenu en force à la faveur de ce qu'on avait appelé les émeutes de la faim en 2007-2008 et d'une grave crise alimentaire liée à un certain nombre de raisons, notamment de spéculation sur les marchés financiers, sur les matières premières agricoles. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient sorties à cette époque-là. On avait pris le choix de laisser un petit peu l'actualité chaude passer. Et pour revenir un petit peu à froid sur cette grave crise et puis donc sur la situation de la sécurité alimentaire dans le monde en général. Ouais.
Donc quand on parle de sécurité alimentaire, on parle pas forcément de malnutrition ou d'absence de dose minimum de calories hein, par jour pour une personne, mais on parle aussi souvent de sécurité alimentaire. C'est quelque chose de très global, hein. Sécurité alimentaire, ça concerne aussi les pays largement pourvus en aliments et qui bouffent trop, ou comme nous par exemple, ou mal, etc. Mais là, quand on parle de sécurité alimentaire, c'est sur cette globalité-là ou sécurité alimentaire liée à la pauvreté?
Alors on parle quand même de sécurité alimentaire, effectivement, on parle pas de l'approche qualitative de la nutrition, même si ça reste quand même effectivement une donnée assez importante à considérer, puisque de plus en plus se posent des problèmes nutritionnels assez extravagants. D'ailleurs, dans ce numéro, il y a un nutritionniste de l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, qui nous décrit un petit peu des phénomènes très très étranges. Il était auteur d'un livre qui s'appelle, j'ai plus le titre exact, mais en substance c'était obèse partout, enfin des gros partout, y compris dans des pays pauvres, où il y a des situations d'insécurité alimentaire, mais d'un point de vue quantitatif, au point qu'on arrive même à des situations où dans un même foyer, de retrouver des familles où se cumulent des problèmes de malnutrition quantitatif et des problèmes de mauvaise nutrition qualitative. Et on peut trouver des gens obèses avec des gens dans le même foyer qui, eux, n'auraient pas suffisamment à manger. Mmh. Mais bon, grosso modo, mais plutôt, disons, l'angle qui d'approche, c'est quand même le problème de disponibilité alimentaire. D'un point de vue quantitatif.
Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est directement lié à la pauvreté. Alors, il y a un gars qui est connu, hein, Ziegler, qui lui dit, de toute façon, l'expression qu'il emploie, c'est génocide alimentaire, hein, c'est ça. Hein.
Je crois, je me souviens plus exactement.
En fait, globalement, il dit, ça fait très longtemps qu'il est sur ce sujet-là. Il dit qu'en fait, c'est très simple, c'est une histoire de volonté. Ah ben là, c'est là où ça se complique, parce que depuis des années qu'on en parle de la pauvreté, des problèmes d'alimentation. Regardons d'abord devant notre porte. Une histoire de volonté quand ce sont les marchés financiers qui dirigent ou les États, on sent qu'ils ont plus trop de possibilités d'amplitude, d'action politique en tout cas. Quand on sait que ceux qui sont en croissance ont la possibilité, on pense au Brésil, hein, tu peux en parler par exemple, ont la possibilité de mettre en place des programmes politiques, mais nous on n'est pas en croissance, alors on fait quoi? Et puis c'est compliqué, et puis il y a des pays d'Afrique ou d'ailleurs où il n'y a pas forcément la structure politique. Donc dans ce numéro et sur cette conférence débat qui aura lieu demain, est-ce qu'il y a des pistes qui sont proposées et qui seraient entre guillemets nouvelles par rapport à tout ce qu'on sait déjà sur cette question-là?
Alors déjà premier point, c'est ça va être d'aborder la complexité de la situation. Pendant très longtemps et presque encore aujourd'hui d'ailleurs, une des grandes organisations des Nations Unies qui s'occupe de l'agriculture et de l'alimentation, la FAO, considère la question de la sécurité alimentaire comme un problème de disponibilité. Point. C'est un problème de disponibilité agricole. Il n'y a pas assez de disponibles alimentaires. Et c'est la raison pour laquelle des gens souffrent de la faim. Évidemment, on s'aperçoit, et on le sait depuis quand même un certain nombre d'années, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et que c'est d'abord un problème d'accès à l'alimentation. C'est-à-dire qu'on sait très bien que des gens peuvent être en malnutrition dans des pays où il y a suffisamment de disponibles agricoles. Donc c'est cette complexité-là qu'on va entrevoir demain, et surtout la manière dont justement la communauté internationale peut entrevoir cette complexité pour gouverner, tâcher de gouverner un petit peu cette sécurité alimentaire mondiale, sachant encore une fois que justement à l'échelle internationale, des objectifs ont été fixés. Je me souviens, enfin c'était en 2000 ont été fixés les objectifs du millénaire pour le développement, et il y en a un qui concerne l'alimentation où il s'agit de réduire de moitié la proportion de la population qui souffre de la faim entre 90 et 2015. Mmh. On est très mal parti parce qu'on est sur une tendance qui est, si vous imaginez la courbe qui devrait être celle de l'objectif du millénaire pour le développement et celle de la réalité, elles sont tout à fait inverses, enfin en tout cas pas du tout convergentes.
Oui.
Et là où on devrait arriver en 2010 à peu près 10% de la population mondiale qui serait sous-alimentée, on est en fait déjà à 15% et avec une courbe croissante. Donc on est très très loin d'atteindre cet objectif. Donc c'est ce qu'on va discuter demain. Vous parliez de Jean Ziegler, justement il y a son successeur à ce poste-là de représentant spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, qui sera avec nous demain. Donc, il nous parlera justement du droit à l'alimentation, qui est une des pistes évoquées, c'est-à-dire ériger l'alimentation en droit.
C'est pas déjà encore le cas au niveau des Nations Unies.
C'est pas encore le cas, non, c'est pas encore le cas partout. C'est le cas effectivement au niveau des Nations Unies, c'est-à-dire il y a un droit international, mais l'idée ce serait qu'il soit traduit dans toutes les législations nationales. C'est le cas dans certains pays comme le Brésil, l'Inde, et justement on évoquait le cas du Brésil.
Alors, c'est un cas particulier en matière d'action politique dans ce domaine ?
Ouais, c'est un cas assez particulier et dans la mesure où l'éradication de la malnutrition a été érigée au rang de priorité nationale.
Ça, c'est le programme Lula, quoi.
C'est le programme Lula, le programme Faim Zéro, et qui vise à justement éradiquer la malnutrition. Alors, je sais pas où ils en sont exactement, mais... Et là aussi, justement, on aura demain un intervenant brésilien qui est représentant permanent du Brésil auprès de la FAO à Rome et qui vient donc demain à Montpellier pour décrire ce programme-là. Donc, il nous dira où est-ce qu'ils en sont et les statistiques qu'ils ont réussi à obtenir en matière d'amélioration de la nutrition, de l'alimentation au Brésil. Mais voilà le type de pays qui est en croissance, donc effectivement qui a les moyens financiers de lancer ce type de programme de redistribution alimentaire, mais pour autant des pays en croissance ou qui ont des moyens financiers ne le font pas. Donc c'est effectivement une volonté politique pour résoudre ce problème-là. Donc c'est l'exemple. Enfin, en tout cas, le Brésil est un bon exemple de résolution du problème à partir du moment où c'est devenu une priorité politique. Ouais.
D'accord. Est-ce que, alors, sur le postulat de certains qui consistait à dire que c'est une histoire de contenant, enfin de contenu, c'est qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Est-ce que c'est pas un argument foireux, ça, qui est pas, de dire qu'il n'y a pas assez pour tout le monde? Si je prends l'exemple de la France, par exemple, on est un pays agricole, et pourtant, il y a des gens qui vont au Resto du Cœur.
Mmh. Non, ça c'est pas faux. Même à l'échelle internationale, on est vraiment dans une situation où il y a suffisamment à manger pour tous.
Oui.
Où il y en aura même trop, d'ailleurs. Donc c'est vraiment pas un problème de quantité, c'est vraiment un problème de disponibilité et de répartition.
Où va toute cette bouffe?
Où va toute cette bouffe? Bah, déjà, il y en a beaucoup qui est perdu, hein. Il y en a énormément qui est perdu et puis qui est mal effectivement qui est mal distribué. Alors après, alors soit on est dans des pays comme le Brésil où la redistribution peut s'opérer, soit parce que effectivement le pays dispose de toutes les structures, soit de transport, de stockage, de logistique pour que cette redistribution s'opère. Alors évidemment, il y a des pays où se pose vraiment, alors ils existent encore, mais par exemple au Sahel, où se pose vraiment le problème de la quantité, notamment à des périodes clés de l'année. Et où les situations de stockage ne sont pas suffisantes pour pouvoir, remplir ou...
Oui, ça, on peut le comprendre, voilà. Vu la localisation géographique.
Donc ouais. Là, on est effectivement dans des régions où se pose typiquement, le problème classique de la faim, de disponibilité alimentaire à certaines périodes de l'année, dans des zones reculées, peu connectées au marché, et donc où, les populations seraient pas, n'aurait pas accès à l'alimentation pour certaines périodes de l'année. Mais c'est vraiment une situation assez, assez confinée géographiquement à l'échelle du monde. Après, il se pose évidemment des situations d'urgence graves, soit par rapport à des conflits. Donc on peut penser par exemple au Congo, hein, qui est un pays où la malnutrition existe et bon, où il y a une longue guerre et encore des situations de conflit. Et puis il y a des situations effectivement d'urgence alimentaire, par exemple à Haïti, il y a des graves
tremblements de terre.
Des catastrophes naturelles. Ouais. Mais après, en dehors de ces situations d'urgence. D'accessibilité compliquée, c'est typiquement un problème d'accès et c'est typiquement un problème de répartition. Donc dans des pays riches comme la France ou dans des pays ou comme les États-Unis où se posent des problèmes de malnutrition, c'est-à-dire de gens qui souffrent de ne pas avoir suffisamment à manger, c'est typiquement un problème de répartition. Et donc là une volonté politique de régler ce problème-là. Ouais.
Et où on y revient en permanence, c'est une histoire de partage. Voilà, on a beau tourner le truc dans tous les sens, quoi qu'il arrive, sur tous les sujets, on y revient sur l'idée du partage. Bon, alors, je redis, hein, demain, le 20 mai, vous pouvez avoir des informations sur cette conférence sur le site courrier de la planète tout attaché. .org, courrier au singulier de la planète.org. Vous retrouverez différentes informations sur cette revue Courrier de la Planète, revue que on aime beaucoup à Divergence, qu'on suit, et on te recevra de toute façon régulièrement chaque sortie, Damien, parce que les sujets sont fouillés, et puis voilà. Donc si vous voulez, abonnez-vous aussi, c'est pas cher. Profitez-en. Donc demain, jeudi 20 mai, si le sujet vous intéresse, ou si vous intéresse pas, mais que vous avez envie d'être un peu moins couillon sur le sujet, ben vous pouvez vous rendre assez ouvert à tout le monde.
Oui.
Eh ben, vous pouvez
c'est
vous
entrée libre.
Voilà, entrée libre à l'amphi Jacques Alliot, bâtiment 4, campus Lavalette, c'est au CIRAD, avenue Agropolis. Et demain, 20 mai, je disais, de 10h à 16h, sur la sécurité alimentaire au-delà de l'urgence. Damien Conaré, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Sur les ondes de Divergence. Et maintenant, je vous laisse dans les mains de Pascal Rullier.
Merci Christian. Ainsi se referme cette édition de Tous au poste. Merci de l'avoir suivi. C'était Julia Chamaudon, Christian Coste et Pascal Rullier, évidemment, dans ce Tous au poste. Demain, Jacques Bonnet recevra les salles Victoire 2 et Rockstore et Manuel Plaza, le Skeleton Band. À suivre sur le 93.9 de Divergence, si vous nous écoutez, qu'il est 13h, ce sera Bruit de fond, troisième épisode de la série Rodolphe Burger. À 13h30, Cinérama, les crocs d'Olivier Nautal sont décalés à 14h30. 16h59, Radio Homicide. 17h, votre rendez-vous avec l'actualité et Radio France Internationale. 17h10, la rediffusion de ce même Tous au poste. 18h, Cinérama. 19h, 24 notes secondes. 20h30, n'oubliez pas, en direct de la salle Rabelais, l'Agora des Savoirs. Et à 22h, c'est Salut les PD. Bonne écoute des programmes de Divergence FM. Merci de votre fidélité.